Ici Yves Houde, vous écoutez l'émission Entre nous et vous êtes à l'antenne de Radio Galilée. Richard Sainte-Marie, bonjour.
Bonjour.
Les Blues des Sacrifiés, c'est votre quatrième roman en 4 ans. Vous gardez le rythme?
Oui, en presque 5, mais ouais. C'est ça, j'ai gardé le rythme. Justement, pour le blues, il faut avoir le beat. Hein?
Oui, et en fait, vous dites presque en 5 ans, et en fait, c'est 5 publications, parce que le Ménage Rouge a eu une première publication, puis après, vous l'avez remanié, repris.
Je l'ai repris au complet, je l'ai augmenté, j'ai changé la fin, en fait, un grand ménage. Quoi.
Ouais.
C'est une toute autre publication, en fait.
Ouais. Et la première version? Ça a été retiré, c'est ce...
Oui, ben c'est presque pas vendu. Et c'était un peu... Le livre est mort, on peut dire, au bout de quelques mois, en 2008. Et quand Jean Petitgros m'a offert de le refaire, lui, il l'avait lu, la première édition de chez Stanquet. Il m'a dit, moi, je l'ai aimé beaucoup, la fin un peu moins, mais en tout cas, si ça t'intéresse de le refaire chez nous, ben, alors je te laisse carte blanche. Alors, je l'ai repris. J'ai enlevé le dernier tiers, donc c'était beaucoup, là. Mm-hmm. Et j'ai réécrit complètement. Il y a des personnages nouveaux. Comme je dis, la fin a été changée. L'histoire est plus complète. Au début, les victimes étaient seulement... On savait qu'elles étaient mortes, mais là, on a su comment et pourquoi.
D'accord, on en apprenait davantage. Une brève rétrospective, oublions cette première version, c'est L'Inaveu, le premier roman. Une enquête d'une histoire qui date de une trentaine d'années. Une enquête qui est reprise. Ménage Rouge, un triple meurtre. Repentir, un double meurtre. Ça se passe dans une galerie d'art cette fois.
Oui.
Et le blues des sacrifiés, triple meurtre à nouveau. Et on est dans l'univers maintenant de la musique et de la sonorisation.
Oui.
Les deux derniers font appel à des univers qui vous sont particulièrement connus.
Oui, parce que j'ai été musicien très jeune. J'ai commencé à jouer dans les bars et les hôtels. J'ai une formation classique, mais j'ai joué pour gagner ma vie à partir de 16 ans. Mes parents sont morts, j'avais une vingtaine d'années. Donc, toutes mes études, je les ai payées avec la musique. Et j'ai continué à jouer aussi, même quand j'ai commencé à enseigner à l'université à 24 ans. J'ai continué à jouer encore un peu de musique. Et j'ai joué jusqu'au Cirque du Soleil. C'était mon dernier engagement en 1984. Ça fait longtemps.
Et les bars et les hôtels, c'était dans la région de Québec?
C'était à l'époque avant les discothèques. C'est l'époque où il y avait dans chaque village, dans chaque petite ville...
Il y avait hôtel qui avait...
Au moins un hôtel, des fois deux, puis avec des orchestres. Alors moi, on jouait du jeudi au dimanche. Et c'était suffisant pour gagner ma vie amplement. Et donc, j'étais libre la semaine pour étudier.
Ça, pour la musique, l'art visuel, vous l'avez enseigné pendant 30 ans?
Pendant 30 ans, parce que mes études sont faites justement en art visuel. J'ai étudié à l'École des beaux-arts. Et en 70, l'École des beaux-arts a été cédée. C'est une école gouvernementale, hein, comme les conservatoires. C'est passé à l'université et moi, je suis passé avec. C'est-à-dire, au mois de mai, j'étais étudiant aux beaux-arts. Et pendant l'été, le changement s'est effectué. Et en septembre, j'étais professeur à l'université. Donc, à partir de là, parce que mon cours, c'était en sculpture, de dessin. À la toute fin, au bout des dernières années, j'enseignais le Photoshop, là, des trucs informatiques.
L'enseignant en vous influence l'écrivain?
Ah oui. Mais en fait, ça, c'est intéressant parce que, en fait, à mon âge, maintenant, j'essaie de faire comme la synthèse de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis père, je suis grand-père, j'ai été barman, j'ai joué dans la marine canadienne, une fanfare, j'ai enseigné, j'ai fait de l'art, la musique. Et l'écriture, c'est vraiment comme la synthèse de toutes ces expériences de vie qui se retrouvent dans un métier, parce que écrire, c'est un métier. Alors, c'est pour ça que je trouve l'écriture si jouissive. C'est vraiment l'occasion de tout mettre les œufs qu'on a éparpillés dans le même panier.
Et dans le temps, Richard Sainte-Marie, où vous recueillez ces œufs-là pour les mettre dans le panier, vous attendiez le moment propice pour écrire ou si l'écriture vous est arrivée en prenant votre retraite en disant « il faut bien que je fasse quelque chose ».
Un peu les deux, c'est-à-dire que moi j'étais prof, donc en étant prof à l'université, j'avais des choses à écrire, des procès-verbaux, des rapports, des lettres de recommandation, des articles sur l'estampe, par exemple dans des revues. des conférences. Donc, j'écrivais des conférences avant de les donner. Et donc, j'avais j'ai écrit aussi avec Nicole Malenfant le code d'éthique de l'estampe originale. Donc, un manuel en sculpture. Donc, des choses, je pourrais dire, savantes. J'écrivais ce que je savais parce que j'enseignais. Mais il n'y avait pas de fiction. La fiction, c'est venu vers la fin, un petit peu avant la fin, avant ma prise de retraite. Dans les années 95-16, j'ai commencé à écrire des tout petits textes, une page, des pensées plus que des histoires.
On n'est pas au niveau de nouvelles encore.
Non, c'est vraiment une page ou deux. Et j'ai publié ça dans un livre qui s'appelle « Sombre histoire », où c'est un livre d'artiste. Il y a 80% du livre, c'est des images, mais il y a quelques petits textes. Ça, c'était mes premières fictions, mais qui sont des histoires. Et après, j'ai fait de la radio pendant 8 ans à CKRL et j'écrivais des textes pour la radio. Et encore là, c'était des pensées, mais la fiction, à proprement parler, ça a commencé en 2000, à quelques semaines après ma prise de retraite. Oui. Et là, j'ai commencé à écrire des histoires.
Oui. Et dans la panoplie des possibles en fiction, pourquoi vous vous orientez vers le roman policier ou le roman d'enquête?
Bien, parce que là-dedans, il y a tous les sentiments qu'on peut imaginer se retrouvent dans ce genre. C'est la littérature de genre. Hein? D'abord, il y a le crime. Il y a question de vie ou de mort presque à toutes les pages. C'est le principe même du roman policier. Oui. Vous disiez en début, 2 morts ici, 3 morts là. Dans l'autre, il y en a un mort. Mais donc, être ou ne pas être, c'est à toutes les pages. Après, il y a le désir, la méchanceté, l'acte de le faire, le remords, le repentir, le plaisir de l'avoir fait aussi, la crainte d'être pris. Si j'écris un roman à l'eau de rose, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de ces sentiments-là qui ne s'y retrouvent pas. Mais dans le roman policier, c'est une palette, à mon avis, plus vaste, dans laquelle moi, je me trouve assez confortable. Oui. Malgré que je ne suis pas un criminel d'habitude.
Oui, mais Richard Sainte-Marie, dans votre dernier, le blues des sacrifiés, on est plus en présence des victimes
oui.
qu'en présence oui. des méchants, si on veut. On en rencontre, là, on va finir par en oui. rencontrer. Mais ce sont plus les victimes, donc ceux qui subissent finalement ce qui s'est passé et
oui.
qu'on ne sait pas qui l'a fait. Là.
C'est parce que moi, j'ai voulu, justement, dans ce livre-là, je suis content que vous en parliez, parce que dans ce livre-là, il y a le récit de l'enquête qui se passe au Hill, puis au passé simple. Et il y a, en alternance, un chapitre sur deux, ou à peu près, il y a le récit qui s'écrit au jeu. C'est la parole du mari d'une des victimes. Alors lui, il peut parler de sa douleur. Ça m'a donné la chance de donner la douleur, la faire apparaître, la douleur des victimes. Et même des fois, la douleur aussi des coupables, parce que les coupables ne sont pas parfaitement noirs, puis les bons parfaitement blancs. Il y a un peu de grisaille à travers ça. Mais donc, si j'ai dit « il souffrait beaucoup, il a souffert énormément », bon, OK, ça va, mais « je souffre, j'ai mal », ça fait plus mal. Alors, écrire au jeu et au présent, c'est plus une claque dans la figure pour le lecteur. Donc, en alternance au jeu et au « il », au passé puis au présent, puis en donnant la parole à ceux qui souffrent. Et j'ai là-dedans, dans cette partie-là, des victimes, ben, j'ai beaucoup de souffrance. Puis moi, ça m'intéresse, la souffrance. C'est un des éléments de tous mes romans. Et psychologique, la souffrance, peut-être pas tellement physique, parce que dans le fond, mes crimes, ça dure un quart de page. Hein.
Ouais.
Mais la souffrance psychique, psychologique, du méchant comme du bon, ça m'intéresse. Alors, avec ce stratagème-là du jeu et du « il », ben, j'étais capable de le faire. Et ça donne un peu plus d'humanité au récit.
Oui, vous avez pris un peu vos lettres de noblesse en la matière de fiction, roman policier. Vous êtes reconnu au Festival de Saint-Pacôme.
Oui, je suis en nomination pour la deuxième fois pour le prix. J'aimerais bien le gagner, mais il y a Jean-Louis Fleury qui est pas mal bon. Puis André Jacques aussi, qui est un ami qui est pas mal bon aussi. Alors, puis c'est drôle parce qu'on est à peu près du même âge. Là. Moi, je suis peut-être plus vieux qu'eux un peu, mais presque autour de 65-70 ans. Et ben, c'est des pères. Hein. C'est des amis, surtout André Jacques, que je connais plus.
Vous échangez des procédés, des idées, des...
Énormément.
Oui. Alors, il n'y a pas de concurrence.
Pas vraiment. Il y en a peut-être au point de vue commercial à d'autres niveaux, mais pas entre nous, en tout cas. Moi, je suis ami avec Martin Michaud, avec Patrick Sénécal, avec André Jacques, avec Benoît Boutillette et Jacques Côté. On voyage ensemble dans des salons. On parle à Jean-Jacques Pelletier. Jean-Jacques Pelletier, notre plaisir, Jean-Jacques et moi, c'est de parler justement de la mécanique d'écriture, d'écrire au jeu, d'écrire au passé, au plus que, les avantages du plus que parfait. Tu voyais un peu le truc.
À l'occasion, oui.
Mais on parle mécanique, on parle de char, comme si on était des gars de mécanique. On parle aussi d'écriture, de sujets, tout ça. Mais puis je me rappelle encore à Knowlton, j'avais été en nomination pour le prix de Knowlton et tout le monde venait à ma table. Richard, c'est ton tour, c'est sûr. Puis c'est tous des collègues. On est peut-être en compétition sur le marché, mais entre nous, non.
Chacun de vos romans nécessite une quantité de connaissances assez phénoménale dans des domaines assez divers. Que j'imagine peut-être que vous les possédez tous, mais j'imagine que vous avez besoin de personnalités ou de personnes ressources pour venir compléter. Et je pense que la liste de vos remerciements dans l'ouvrage en témoigne qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur vos romans.
Oui, écrire, c'est un acte solitaire, mais publier, ça, c'est un acte collectif. C'est pas pareil. Ça prend entre moi et le lecteur, il y a au moins 20 corps de métier. Si on parle même au livreur de chez ADP qui fait la distribution dans les librairies. Mm-hmm. Il y a les bibliothécaires, les libraires, il y a les imprimeurs, les correcteurs, il y a les photographes, il y a un tas de monde. Puis surtout, l'éditeur et ces gens chez lui qui me font retravailler. Alors moi, je suis pas tout seul. Et pour certains, j'essaie de partir de moi. Parce que pendant 30 ans, j'ai enseigné aux jeunes que le trésor était en eux, puis que ça ne servait à rien de creuser à côté. Alors moi, je m'applique la même règle. Donc la musique, j'ai été musicien, je sais de quoi je parle. Puis des expériences en studio, j'en ai eu, au cirque. Du bar-salon au Cirque du Soleil.
Mais que connaissiez-vous de la balistique, par exemple? Ou qu'est-ce que vous savez des autopsies?
J'ai un ami, justement, François Julien, qui est biologiste judiciaire. Qui est à la retraite, il travaillait au laboratoire appartenait, qui est à la retraite, qui est très, très, très généreux. Lui, on peut l'appeler, puis il nous répond dans la journée ou presque. Si on trouve un cadavre dans un lieu humide ou dans un lieu sec, il va tout nous dire.
C'est tout ça.
Puis il y a tellement de gens. Jamais, quand j'ai demandé un renseignement à un professionnel, jamais... ils m'ont fait un refus. Au contraire, ils me donnent des informations beaucoup plus belles que ce que j'avais en tête. Ouais. Parce que les gens aiment parler de leur métier, que ce soit un policier ou un archiviste un jour. Je l'ai envoyé un message pour savoir si la ville de Montréal gardait en archive le nom de leurs employés de soutien, par exemple, il y a de ça 50 ans, je ne sais pas moi. Il y avait les archives de M. de Maisonneuve. Mais il n'y avait pas les archives de l'employé qui balayait le plancher en 1972. Ouais. Mais savez-vous quoi? Ils les ont. Puis là, l'archiviste me répond, oui, ça se trouve dans des voûtes qui sont en dessous des jardins de l'Hôtel de Ville. Et si votre policier vient, même avec un mandat, on va l'accompagner parce que c'est un endroit qui est réservé. On va l'aider. Et ce que vous cherchez, c'est dans à peu près 14 boîtes. Ça va prendre 20 minutes pour les trouver. Alors moi, j'ai écrit ça. C'était bien mieux que ce que j'avais inventé. Et c'est formidable. Et puis les gens sont très, très, très généreux.
Résumez-nous en deux phrases le blues des sacrifiés en nous donnant le goût de le lire et en ne vendant pas ce qu'on
le punch.
Le punch ou le plaisir de le lire.
Le blues des sacrifiés, c'est un blues qui est... Oh, la musique est extrêmement importante, la moitié du livre. Puis toutes les anecdotes musicales sont vraies parce que je les ai vécues. Alors ça, c'est intéressant. Mais l'histoire est fausse. C'est l'histoire d'un policier qui est assassiné en écoutant la musique. Une femme qui est l'épouse d'un professeur de saxophone à l'université qui est assassiné aussi. Et un musicien dans son studio, crapuleux, qui est assassiné. La police va enquêter là-dessus. Et... La solution va venir aussi des victimes. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille.
Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame.
Je m'entretiens avec Richard Sainte-Marie à propos de son quatrième roman, Le blues des sacrifiés. Fallait quelques notes de blues.
Oui, c'était beau.
Oui, et B.B. King, qui chante Lucille, hommage à sa guitare, à sa célèbre guitare. C'est la musique qu'écoutait le policier Nicolas Turmel ouais. au moment où il était assassiné.
Oui, et il y a une histoire. Au début, dans mon livre, je devais... il y avait un personnage important qui s'appelait B.B. King, mais B.B. King était encore vivant. Alors, il y avait un problème pour l'utiliser, le prendre, lui. Alors, j'en ai choisi un autre. Mais oui, il faut mélanger un peu la réalité avec la fiction. Je trouve que c'est la puissance de l'écriture. C'est justement, les écrivains sont des voleurs et des menteurs, hein, on le sait.
Mm-hmm. Alors, des pilleurs, disons.
Des pilleurs. Ouais. Alors, moi, je pique des paroles, des phrases de personnes, des situations, des choses que j'ai vécues. Et ça ajoute à la vraisemblance, c'est sûr, parce que c'est vrai. Donc, c'est la vérité. Mais il faut être un bon menteur pour mélanger ça en petite dose ou en grande dose avec l'invention. Et c'est le plaisir.
Avec l'élément de fiction.
Ouais.
Il se fait beaucoup, dans vos romans, il se fait beaucoup d'autopsies, parce qu'il y a beaucoup de morts et ouais. des morts suspectes. Donc, on est obligé d'aller en médecine légale. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu l'autopsie du roman. De votre dernier, vous menez de front trois pistes. Celle de la mafia russe en particulier, celle des bandes sonores, d'enregistrement, de studio, de sonorisation, etc. Et je dirais plutôt d'un clin d'œil, mais enfin, il y a un petit crochet vers l'État islamique.
Oui.
Bon, ça, on sent le contemporain là-dedans, le pillage d'une réalité, d'une actualité contemporaine. Vous avez hésité entre les trois pistes ou si au départ, vous saviez laquelle vous alliez mener?
Non, je ne savais pas parce que moi, j'écris sans plan préalable. Alors, c'est un peu un problème parce que
pour un professeur, c'est quand même...
Oui, c'est exactement.
C'est un aveu assez...
Mais en même temps, Yves, c'est que... Pour un professeur, oui, mais pour un musicien qui était un improvisateur, non. C'est tout à fait logique. Moi, c'est sûr que j'ai appris au conservatoire pendant 4 ans, la clarinette, j'ai joué Mozart et tout ça, puis j'aime bien la musique classique. C'est ça que j'écoute, la musique classique, beaucoup plus que d'autres. Mais il y a ça, écrire ce qui est écrit sur la feuille, c'est une chose, c'est formidable, mais jouer sa propre musique à partir d'une base... Ça, c'est autre chose. Ça veut dire recréer un monde à partir d'une structure de base, improviser, aller vers la surprise, aller vers l'inconnu. Ça, c'est surtout ça que j'ai fait comme musicien quand j'étais musicien. Alors, là, c'est pour ça que probablement, c'est pour ça que j'écris sans plan. Je pars à l'aventure. J'aime mieux... Moi, je dis souvent... je fais des blagues avec des écrivains qui sont très structurés, comme Christine Brouillet ou Jean-Jacques Pelletier, par exemple. Jean-Jacques, il y a ses livres, le plan a 300 pages. Mais moi, je dis Jean-Jacques, c'est fou.
Oui, mais le livre en a 600.
Oui, le livre en a 600. En fait, il fait un plan, puis il l'épaissit, ça devient un livre. Mais moi, j'aime mieux le plaisir de la création puis de l'invention, même si c'est risqué d'être bloqué puis d'arrêter pendant 3 mois parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. J'aime mieux ça que d'avoir un plan puis de me sentir comme un ingénieur qui applique le plan. Puis, Christine, elle dit que... C'est presque la dernière phrase avant même de commencer. Bien, c'est bien, ça fait ses preuves, c'est super, ça. Oui. Jean-Jacques aussi, et d'autres. Mais il y en a d'autres, comme Roger Ellery, par exemple, qui lui dit non, moi, je pars à l'aventure. Mais le problème, c'est que ça bloque.
Faut pas se perdre non plus, justement, dans l'aventure. Bon, vous avez trois pistes, vous allez en choisir une, ce qui veut dire que les deux autres sont, jusqu'à un certain point, de la distraction ou un leurre.
Exact.
Pour... mener le lecteur.
Ouais.
Et dans le cas de ce roman-ci, ben vous menez aussi vos enquêteurs
ouais.
qui vont errer dans ces trois pistes-là sans savoir laquelle est la bonne et, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça.
Et dans mes livres, dans tous mes livres d'ailleurs, le policier, mon héros, Francis Pagliaro, il n'est pas seul à toutes les pages. Il partage toujours la vedette avec un autre, avec ou la victime ou... ou les parents de la victime.
Il y a un associé.
Exactement. Donc, la plupart des je dirais, les romans policiers conventionnels, ben, le flic, c'est le héros, puis il est là, c'est, il est grand, puis il est fort. Le mien, ben des fois, il n'a pas la vedette. Il la partage, la vedette, avec nous. Ce qui me permet d'autres, de faire passer d'autres sentiments, d'autres choses que la procédure policière et que tout le monde connaît ou à laquelle tout le monde est habitué. Quoi.
Vous disiez plutôt avoir beaucoup connu par la musique, vous avez connu les studios d'enregistrement et tout ce qui va autour de ça. Et c'est une des pistes.
Oui.
Et c'est une des pistes que peut-être qui est la plus développée dans les trois. C'est celle à laquelle vous donnez le plus d'importance dans les trois. Et là, on sent que vous avez envie de nous apprendre un certain nombre de choses sur comment ça fonctionne.
Oui.
C'est quoi les instruments qui sont là?
Oui, parce que j'ai... Oui, mais ça, c'est un autre piège aussi, justement, parce que, justement, si on en met trop de cette information-là, ça devient plate. Par exemple, dans mon livre « L'autre avant »,« Repentir », ça se passait dans le domaine des arts visuels. J'ai enseigné 30 ans les arts visuels, donc je connais ça. Et j'avais des descriptions, par exemple, il y a un passage où mon policier Pagliaro rencontre une collectionneuse, puis on parle d'estampes, puis j'avais 3-4 belles pages. Mais ma femme, qui est l'une de mes premières lectrices, me dit « Écoute, c'est un peu plate. Là. C'est intéressant, mais tu nous sors de l'histoire. » Et je sais que mon éditeur aurait dit la même chose, ouais. Avec raison. Il faut penser qu'il y a quelqu'un au bout qui va lire. Il ne faut pas l'emmerder. Il va tourner les pages. Il tourne les pages, c'est nul. Là, il faut qu'il les lise. Alors, je me dis c'est un peu difficile parce que tu passes 2 jours, 3 jours sur un passage et... Donc, tu l'aimes, ce passage-là, c'est toi qui l'as fait, t'es tout fier, mais il n'est pas bon, il faut l'enlever. Alors, envoyer de l'information, c'est intéressant pour le lecteur. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, certains qui m'ont écrit en me disant, on apprend des choses, on ne savait pas que c'était comme ça. Et ça m'est venu de la radio aussi. Quand j'ai fait de la radio avec mon ami Jean-Pierre Gay, on interviewait les artistes, puis on leur demandait des trucs. Pourquoi que c'est fait comme ça? Combien ça pèse, ton affaire? Où on achète les matériaux? Des questions tout à fait banales. Sauf que les gens, à la maison, ils ne savent pas comment les œuvres d'art sont construites. Alors, ça leur répond, c'est le même qu'ils font. C'est intéressant. Alors, moi, j'ai vécu ça à la radio, j'ai dit, dans mon livre, je vais faire pareil. On va de l'information, mais il faut la doser pour que ça soit intéressant, mais il ne faut pas faire des bulles qui sortent de l'histoire.
Complètement. On le mentionnait, il y a trois pistes et vos enquêteurs se perdent un peu dans les trois pistes, particulièrement dans une. C'est si mal engagé pour eux, je pense qu'ils n'arriveront jamais à la solution. Il vous a fallu un délateur.
Ouais.
Est-ce que ça n'a pas été un peu d'évaluer les capacités de votre Francis Pagliaro, votre enquêteur principal, qui s'en sort pas, c'est un délateur qui arrive un peu de façon inattendue.
Mais savez-vous quoi? Ce qui est intéressant, c'est que au moment où j'écrivais le livre, il y a un soir, on est allé manger chez la nièce de ma femme. Et il y avait un homme qui était invité, un homme à peu près de mon âge, qui était là, de cheveux blancs, qui était à côté de moi au souper. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je viens de prendre ma retraite hier. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais policier à la GRC. C'est intéressant, il était assis à côté de moi pour un auteur de roman policier. Alors, on a parlé police. Et lui, il me racontait à un moment donné qu'il y avait une personne qui était venue se livrer un jour. Il quittait le bureau à 11 heures du soir, 10-11 heures le soir. Et il arrive un policier qui dit, il y a quelqu'un pour toi, il veut te parler. Puis là, le gars dit, moi, j'entre ici, je ne sors plus. Je veux vider mon sac parce que si je sors d'ici, ils m'attendent dehors. Vous m'attendez ici, mais les autres, ils m'attendent dehors. Fait que, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ouais. Alors, puis je dis, mon Dieu, la belle histoire, vraie. Alors, c'est ce qui m'a aidé à... Parce qu'il fallait que le policier capture le mauvais, mais il pouvait aussi se rendre. Et, vous voyez, Alors, ça m'a éclairé beaucoup. Et il y avait, dans la description que le policier me disait, des détails qu'on ne peut pas savoir si on ne l'a pas fait ou on ne l'a pas vécu. Ouais. Alors ça, c'est intéressant.
Il vous vient d'où, ce Francis Pagliaro?
Ben, dans ma première version d'Un ménage rouge, il est apparu dans une phrase, dans un paragraphe, je ne me rappelle pas exactement, en tout cas pas plus qu'un paragraphe, parce que ma première version d'Un ménage rouge, c'était pas policier, c'était noir, mais c'est un gars qui fait un crime parfait et qui va en prison pendant 25 ans. Et là, on peut le dire parce que le livre n'existe plus. Mmh. Il est très riche, il tue sa femme avec ses deux acolytes. Sous le coup de l'émotion, il va 25 ans en prison. Alors, il devient encore plus riche parce qu'il était déjà riche avant d'entrer. Alors, ça se multiplie. Au bout de 25 ans, il décide de ne pas sortir de la prison. Il l'achète, la prison. Elle est à vendre parce qu'elle est vétuste. Alors, il achète la prison. Mais donc, il n'y avait pas de policier là-dedans, sauf à un endroit où il faut toujours bien qu'il y ait un policier qui se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a des policiers qui vont le voir, qui lui disent, ben qu'est-ce qui se passe? Ta femme est disparue. Elle est disparue. Ben oui, venez voir, là, sa chambre est vide. Bon. Et je l'ai appelé Pagliaro. Je dis, Pagliaro, c'est un beau nom québécois, mais très rare. Donc, c'est pas. C'est un nom rare, c'est le fun. Bon, quel prénom? Je cherchais, Francis. J'ai regardé sur Internet s'il y avait un Francis Pagliaro au Québec. Il n'y en avait pas. J'ai trouvé un aux États-Unis qui est avant agent d'assurance ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un nom flambant neuf, Francis Pagliaro. Mais il a servi dans une phrase. Dans la deuxième, dans mon inaveu qui a suivi, là, j'ai fait une place. Et là, je l'ai fait à ma mesure, c'est-à-dire je l'ai fait intellectuel. Je l'ai fait aime la musique classique.
Étudiant en philosophie.
Étudiant en philosophie.
Ça, c'est particulier, ça.
Ouais, mais ça existe. Hein.
Ça existe, des policiers qui étudient en philo.
Absolument. Il y en a qui écrivent la poésie, il y en a qui jouent du piano magnifiquement, il y a toutes sortes.
Mais dans votre roman, on sait qu'il étudie en philosophie, ouais. Mais il ne se sert pas beaucoup de ça. Il y a peut-être une ou deux citations à l'occasion.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, oui, ça, c'est un truc...
Mais il ne nous accable pas de ses connaissances et de ses pensées philosophiques.
Non, faut pas. Faut qu'on voit que c'est un amateur, un homme qui aime la philosophie. Mais sa démarche personnelle est un peu teintée par ça, mais il abuse pas, mettons, de citations. Mais justement, chaque fois que Pagliaro a affaire à la philosophie, à un moment donné, dans le livre, il est en discussion avec le mari de la victime. Et là, il s'échange des choses là, sur la religion, sur la philosophie. Et moi, bravo Internet, j'ai fait Platon et la musique. Schopenhauer et la musique. C'est incroyable ce qui sort. Alors, j'ai trouvé une citation de Platon qui... Ça m'a pris l'après-midi pour faire ça. Mais c'est plaisant, on passe un bel
après-midi. Quand on trouve, oui.
Puis Platon qui dit, les musiciens... Platon, c'est lui, c'est vieux, ça, là. Il dit, les musiciens ne devraient pas essayer d'imiter le chant des vaches puis le bruit des essieux. Alors, mais dans la musique contemporaine, des fois, c'est un peu ça actuellement. Alors, c'est un trésor. J'ai mis ça dans la bouche de Pagliaro. Bon, mais c'est des trucs d'écrivain. Ouais.
L'épreuve des faits, Richard Sainte-Marie, vous avez mentionné que la plupart, l'histoire n'est pas vraie, mais tout ce qui se passe dedans, c'est vrai. Le seul indice qui relie les trois meurtres, c'est une arme de fabrication russe qui est interdite au Canada. Vous connaissiez cette arme-là?
Non, j'ai cherché. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà fait du tir à la cible il y a très longtemps. J'avais des armes à feu dont je me suis débarrassé depuis. Mais je cherchais une arme qu'on ne trouve pas ici pour justement mettre un peu de suspense ou de trucs qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Alors, j'ai cherché naturellement le Tokarev, et c'est une arme très connue. Mais celui-là que j'ai choisi, c'est une arme pas très efficace, finalement, qui se bloque souvent. C'est une arme pas chère, qui est très répandue. Je pense qu'ils en ont fait 500 000 exemplaires, les Russes, sur 50 ans. C'est une arme qui n'a pas beaucoup évolué. Le nom m'échappe, c'est fou, c'est mon pistolet. Mais c'est une arme cheap, autrement dit. Et je voulais une arme qui n'est pas connue, qui est interdite. Donc, pour aussi envoyer...
Ça limitait dans l'enquête, ça limitait un peu les recherches.
Puis ça envoie les...
Ça ciblait.
Oui, puis ça envoie le lecteur sur une fausse piste ou une vraie piste, on verra.
Au niveau de la sonorisation, Vous faites allusion au fait que les grands artistes, quand ils enregistrent, ils font des erreurs, ils appellent ça des takes, là, ils se reprennent 3, 4, 5, 6 fois. Ça, c'est gardé c'est gardé en réserve et ça pourrait se commercialiser, ça pourrait se vendre. Par exemple, Céline Dion reprend 4 ou 5 fois la phrase parce qu'elle n'est pas contente, là, mais les 4 mauvaises, là, on les garde puis on pourrait vendre ça à quelqu'un?
Ben, c'est-à-dire qu'on les garde parce qu'ils sont sur le tape. Maintenant, c'est informatique, c'est différent. Mais dans le temps, oui, ben, les plus célèbres, c'est celle de Charlie Parker, le saxophoniste. Oui, il y a un disque que j'ai plus maintenant parce que c'était un micro-sillon. Mais c'était un disque avec juste des takes. Telle tune qu'ils l'ont enregistré 10 fois ou 20 fois. Mais ils ont gardé la 21e. Ben, les 20 premières, ça commençait, mettons, quelques mesures. Ça arrête. Ben, ce petit bout-là, ils le gardaient. Ben, à un moment donné, ils ont dit, tiens, on va publier ça, on va le graver pour les maniaques du jazz. Et c'est des prouesses, des fois, c'est incroyable, mais c'est une version qui est foirée. Alors, ils ne l'ont pas gardé, mais le petit bout en question, il est super beau, mais il n'a pas servi. Alors ça... C'est sûr qu'il y a des pirates qui s'intéressent à ça aussi. Je suis sûr que les takes de Céline Dion, justement, où ça accroche, je suis sûr qu'il y en a. Puis je suis sûr qu'ils sont gardés dans un coffre-fort quelque part ou bien ils sont effacés. Mais il y a forte chance qu'ils ne soient pas effacés, mais soient gardés pour toutes sortes de raisons. Mais un pirate ou un voleur, naturellement, peut mettre ça sur le marché. Il y a des clients pour ça.
Richard Sainte-Marie, vous avez reconnu?
Non.
Non? Johnny Winter?
Ah, Johnny Winter, ouais. Oui. Mais je connais pas toute son œuvre, mais oui.
Samedi...
Un des plus grands guitaristes de l'histoire, apparemment.
Oui. Hein? Ouais. Samedi 16 juillet 1983, à Montréal. Vérité ou fiction, un concert de Johnny Winter?
C'est la fiction. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais... C'est plausible.
Ça me déçoit, je pensais que vous y étiez.
Non. Je suis bon écrivain parce que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Sauf que c'est une chose qui est possible. Parce que dans les rencontres, moi, par exemple, quand j'étais musicien avec la Fanfafonie, on a joué 2 tournées en Europe, 2 étés, juste un peu avant le Cirque du Soleil. Et il y a un spectacle, il y a une affiche. Il y a Renault sur l'affiche, puis il y a la Fanfafonie, écrit la même grosseur. C'est pas un gros Renault, le chanteur. C'est pas un gros Renault, puis une petite Fanfafonie, c'est toute la même... Il n'y a pas... Dans tout le monde... Puis il y avait un autre aussi, un très grand jazzman qui est là. Et c'est parce qu'aussi, comme au Festival d'été, j'en ai vécu plusieurs, les musiciens plus célèbres se mélangent avec des musiciens moins célèbres. Ils jouent ensemble des fois. Par exemple, au festival d'été, dans le temps, il arrivait que les musiciens de passage, des grands musiciens, étaient au Clarendon, à l'hôtel, ou au Concorde, je sais quoi. Puis ils se retrouvaient le soir, en fin de soirée, à jouer ensemble. Alors, c'était possible. Je connais des gens qui ont joué avec Chick Corea, comme ça, parce qu'ils étaient là, à ce moment-là, dans le même bar, puis qu'ils avaient leur instrument avec eux, puis... Ben, chacun venait, puis on faisait un petit bout. Alors, c'était extrêmement exaltant. Moi, ça m'est arrivé en Europe une fois. Je marchais sur la rue en Belgique, et on passe, puis on avait nos instruments. On retournait, on avait fait un spectacle, on retournait avec nos étuis pour aller dans l'autocar de tournée. Et on passe devant un bar, puis il y avait de la musique. Puis c'était des musiciens qui étaient assez... Je ne sais même plus c'est qui, ces musiciens-là, mais c'était vraiment très bon. Et moi, je sais pas, sous l'impulsion, j'entre dans le bar avec mes copains et je monte mon étui de saxophone au gars sur la scène. Puis le gars, il dit « Ah oui, viens. » Et je monte sur la scène, j'ouvre mon étui. Là, la pièce jouait, là, ça continuait. Les autres faisaient leur show. Je prends mon sax, ils me donnent le micro tout en... Là, on finit la toune, je joue avec eux, ils en repartent une autre, je joue encore, j'improvise avec eux. À la fin, je me retourne vers le musicien qui était à côté de moi, qui était un noir. J'ai dit bonjour, je lui tends la main, j'ai dit bonjour, Richard Sainte-Marie, je suis un Québécois. Il dit, I'm sorry, I don't speak French. Alors, c'était un Jamaïcain ou je ne sais pas quoi. Donc, on ne parle même pas la même langue, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. J'entre là par hasard, je monte mon étui, je vais sur la scène, on joue ensemble, on a un plaisir, puis le monde dans la salle était vraiment... Ça arrive, mais ça arrive des fois avec des gens célèbres.
Okay.
Alors donc, c'est plausible, mais dans le cas, c'est pas vrai.
Je reviens à Johnny Winter, il est décédé le 16 juillet 2014.
Oui, c'est ça.
Vous êtes en pleine écriture du roman.
Oui.
L'annonce de son décès, vous cliquez et vous décidez de l'inclure dans l'histoire?
Non,
ou s'il était déjà là?
Je voulais pas B.B. King parce que B.B. King est encore vivant. Alors, j'ai choisi Johnny Winter. Puis je me suis dit, ce qui est encore vivant, j'ai regardé puis j'ai dit non, il est mort. Alors, là, je peux m'en servir avec plus de facilité parce qu'on veut pas avoir des avocats sur le dos pour dire... Remarquez, dans mon livre, Johnny Winter, il fait pas grand-chose. Il parle pas, il joue, il parle d'une phrase. Mais... Donc, c'est pas... Parce que j'ai pas le droit, moi, en tant qu'écrivain, de faire entrer Céline Dion dans mon roman puis lui donner un rôle. Non, ça se fait pas, ça. Il faut la permission.
Ouais, il faut une certaine réserve.
Ouais.
Un romancier, un écrivain, doit faire continuellement des choix.
Oui.
Quand ça serait que la couleur des yeux de son personnage, s'il a envie de le mentionner ou sa chevelure ou ses vêtements. Louis Collard, qui est le mari de l'une des victimes, qui est un des personnages importants, le professeur de
saxophone,
à l'université, a un fils par adoption.
Oui.
Vous l'avez voulu autiste et vous l'avez fait mourir.
Oui, ben ça, ça vient de ma propre expérience de vie, parce que moi, je raconte souvent ça parce que c'est fondamental dans ma vie, puis c'est fondamental dans mon travail de plus en plus, dans mon écriture. Moi, entre l'âge de 7-8 ans jusqu'à 16-17 ans, juste un peu avant que mes parents meurent, ma mère a gardé chez nous des enfants handicapés, souvent mentaux et physiques. Les deux en même temps.
Mm-hmm.
Je pense qu'elle en a gardé une trentaine. Il y en a qui sont venus une journée, mais il y en a un qui, entre autres, il y en a un qui est un petit garçon qu'on a eu à sa naissance puis qui est mort dans mon lit à 5 ans. Donc, on a eu des autistes, on a eu des toutes sortes, des gens, des enfants battus. C'était la sauvegarde de l'enfance. C'est avant la DPJ de nos jours. C'est eux qui confiaient à ma mère ces enfants-là. Elle disait, je vais prendre ceux que les autres ne veulent pas, parce qu'ils sont handicapés ou ils sont fous. Bon. Et nous, on avait... Donc, ça veut dire, pendant une dizaine d'années, 8-10 ans, j'ai vécu avec des personnes... Des fois, il y en avait deux ou trois en même temps. Des fois, souvent, il y en avait un ou deux, mais des fois, même jusqu'à trois. Et pour des périodes variables, ça ne payait pas. Là. Ils donnaient une pièce par jour à ma mère pour faire ça. Mais ma mère, elle, c'était une femme généreuse. Puis dans le lot, elle disait justement, je veux les personnes dont les autres ne veulent pas. Et là-dedans, il y avait des gens qui étaient... Il y en a eu quelques autistes. Et c'était des personnages fabuleux. Il y a un plaisir à vivre avec des handicapés mentaux. Il y a des plaisirs que les normaux nous donnent pas. Et même, je dis souvent, les fous, ça rit de la folie. Ça se moque de leur propre folie, des fois.
Ouais.
C'est plein de choses. Et cet autiste-là, c'est des bribes d'autistes que j'ai connus. Mais c'est surtout aussi quand j'ai lu le livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » de Oliver Sacks. Lui, il parle là-dedans justement d'autistes savants. Et c'est des personnages très intéressants. Et ce personnage-là, je l'avais fait dans un autre livre dont personne n'a voulu. Et j'ai été refusé par je ne sais pas combien d'éditeurs. Mais donc, il était très, très mauvais d'ailleurs, mon livre. Ça s'appelait Tabac et c'était vraiment pas bon. Mais ce personnage-là, je l'aimais. Alors, je l'ai pris dans le livre, copié-collé. Je l'ai entré dans cette histoire-là, justement pour rajouter un peu dans le côté douleur humaine, compassion, comment dire, donc... Comment dire, non, de de partage avec, les gens qui sont anormaux. Et lui est autiste et son oncle qui devient, c'est un musulman qui devient très, 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 très pratiquant, qui devient probablement un terroriste, mais qui meurt, qui disparaît aussi dans le livre, on peut en parler, parce que c'est un personnage qui ne fait que passer.
Oui, oui, tout à fait.
Et c'est aussi une des pistes de lecture pour les lecteurs. Mais c'est toute une ce personnage-là, c'est toute une tranche de ma vie. Moi, plus j'écris, plus je pense que je parle de moi. Victor Hugo, il disait ça. Quand je dis « vous », c'est aussi de moi que je parle. Et quand je dis « moi », c'est aussi de vous que je parle.
On a tendance à croire ou à dire que le jeune romancier, dans ses premières œuvres, va beaucoup parler de lui, de son milieu, de ce qu'il a.
Ça veut dire que je rajeunis.
Peut-être, oui. Vous, ça vient en fin de parcours. Autre élément, vous situez géographiquement un certain nombre de vos personnages, des lieux publics très, très connus, mais Collard, par exemple, habite la rue de Montigny.
Oui, que j'ai habité la rue de Montigny.
Ah, voilà, parce que vous connaissez très bien, moi aussi, je connais très bien la rue, son segment et ce qui a à la tête de cette rue-là. Rancourt habite la rue du Rocher, dans Saint-Sauveur. Ouais. Vous visitez les lieux, et on va faire une tournée à Las Vegas à un moment donné. Vous visitez les lieux ou si vous prenez Google Maps?
Les deux. Bien, la rue de Montigny, j'y ai habité pendant quelques années, donc je la connaissais. Je trouvais, en plus, c'est vrai, j'étais prof à l'université à ce moment-là, donc c'est un peu vrai. Mm-hmm. Et la rue du Rocher, je l'ai visitée, je la connaissais de souvenir, mais pour être plus précis, je suis allé voir sur Google Maps, tout ça, Street View, et j'ai choisi un numéro qui n'existe pas. Je fais toujours ça. Hein. Oui. Je pense que c'est un truc d'écrivain normal de toujours me donner des adresses qui n'existent pas. Puis il n'y a pas de pèlerinage pour aller voir la place en question. Oui. Mais donc, c'est comme ça que je choisis mes lieux et les noms de mes personnages aussi, je les choisis souvent dans les gens que je connais. Par exemple, Pagliaro, non, mais Martin Lorty, l'assistant de Pagliaro, c'est le nom de mon coiffeur. Puis le juge François Bisson, c'est un de mes amis, François Bisson, qui n'est pas juge, mais qui était informaticien. Et dans mon dernier, là, il y a une avocate que j'ai appelée Mélissa Franco. Bien, Mélissa, c'est la fille, et Franco, c'est le nom de sa mère, c'est des gens de ma famille, des Italiens de Montréal.
D'accord. Alors, vous faites des compositions de cet ordre-là. Oui. Vous plaisez aussi à l'occasion de faire des clins d'œil à vos romans précédents.
Oui.
Il se passe quelque chose et pour le comprendre, c'est pas nécessaire pour la compréhension, mais enfin, on sait d'où ça vient, ça a été pris avant. Des clins d'œil à certains éléments de l'actualité, j'ai fait allusion tout à l'heure, votre petit crochet État islamique, on sait que c'est dans le courant. Mm-hmm. Vous avez fait référence à un moment donné à un jeune homme troublé, Saint-Jean de Richelieu, qui a assassiné un policier.
Ouais.
C'est dans la période un peu de notre terrorisme local.
Pour donner un peu de vraisemblance, en même temps, la date est la vraie date que j'ai mis dedans. Je n'ai pas donné son nom, mais on peut parler. Recoupement, on sait c'est qui.
Vous avez parlé qu'avec d'autres écrivains, vous parlez de structure, de langue, d'écriture, etc. Et il y a toutes sortes de techniques qui sont utilisées. J'en ai remarqué une que vous utilisez. Vous n'êtes pas le seul peut-être à le faire, mais je l'ai remarqué particulièrement dans votre roman. Vous utilisez l'affirmation plutôt que la proposition incise. Vous ne direz pas « dit-il », vous allez dire « il dit ».
Oui, ça, c'est une bonne question. Ça me touche parce que moi, je déteste les « dit-il »,
affirme-t-il,
pense-t-il.
Est-ce qu'il faut
J'essaie de pas en mettre.
Faut-il comme... en chercher, des synonymes?
Oui. Et c'est comme les adverbes. Si on dit « il était absolument fâché », mais comment absolument fâché? Il était fâché de quelle façon? Si tu ne sais pas comment il est fâché, dis pas un terme comme ça, flou. Il faut enlever, si possible, et j'essaie aussi d'enlever toutes les formules. Par exemple, un individu bien connu, les policiers, c'est tellement dit tout le temps ça, que moi, jamais j'écrirais ça, à moins que mon personnage soit quelqu'un qui dit ça comme, bon, comme ça existe dans la vie, mais comme certains journalistes, si j'ai un personnage journaliste qui parle, ou l'élément destructeur en parlant du feu, jamais j'écrirais ça. Et j'essaie de qu'il n'y ait pas, comme, mettons... Il rencontrera l'individu, celui-ci lui dit que ta. Celui-ci et celui-là et ce dernier. J'essaie de jamais écrire ça.
Donc, il y a une épuration du langage qui vous préoccupe.
Exact.
Qui vous préoccupe beaucoup.
J'aime mieux que ça soit ma façon à moi.
Oui. Le thème du prochain Festival Québec en toutes lettres, c'est le polar.
Oui.
Et vous y serez.
Ah, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Moi, je suis tellement content. En plus, on va fêter les 20 ans d'Alire. Il y a un numéro...
Alire, qui est votre maison d'édition.
La maison d'édition, avec Jean Petitgrou, Louise Alain. C'est... Le festival, il met en valeur le polar. Moi, j'ai 5 conférences que je donne dans les bibliothèques. Ce soir, j'en ai une à Sainte-Foy, sur la rue de l'Église. Et demain, je suis... Gabriel Leroy, la semaine prochaine, j'en ai 5. Si on va sur Québec en toutes lettres, on va voir mes conférences, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a des rencontres avec Christine Brouillet qui va faire le parcours de son personnage, un parcours oui. culinaire et tout ça. Il y a des rencontres formidables. Et en même temps, on va lancer la revue Alibi, lance le numéro 60, en même temps que Norbert Spener lance son détectionnaire. C'est un dictionnaire de tous les personnages de romans policiers qui apparaissent dans au moins 3 livres de toute l'histoire du roman policier. C'est un ouvrage colossal de 600, 800 pages qui sort en même temps. Alors, tout ça, ça fait un événement formidable.
Beaucoup d'activités autour de la littérature.
Ouais, la Maison de la littérature, c'est extraordinaire.
C'est donc publié chez Alire.
Oui.
Le blues des sacrifiés, signé Richard Sainte-Marie. Merci beaucoup pour cette
entrevue. Merci à vous, merci.